Microcité.
Une émission de l'école de journalisme de Grenoble.
Sur Campus Grenoble 90.8. 16h30, 17h. Xavier Ponroy.
Bonjour à toutes et à tous, il est 16h30, vous êtes sur Radio Campus Grenoble. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h dans Microcité, l'émission hebdomadaire d'information et de débat préparée par les étudiants de l'école de journalisme de Grenoble. Au sommaire de cette 5e édition, faut-il choisir entre pouvoir d'achat et écologie? La hausse des taxes sur le carburant suscite un vif mécontentement des automobilistes. Alors pourquoi cette grogne? Et faut-il en passer par des taxes pour avancer dans la lutte contre le réchauffement climatique? Ce sont les questions que posera en deuxième partie d'émission Rudy Pupin à ses invités en studio. Puis on terminera notre grand format et là aussi on parlera d'automobile, ou plutôt de mécanique. Alexandre Lepère est allé à la rencontre des Galapia, une association grenobloise qui construit des voitures de course, mais qui allie surtout transmission des savoirs et des valeurs. Vous pouvez réagir à l'émission en direct sur Facebook et Twitter avec le hashtag Microcité. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h, Microcité, ça commence maintenant. Et on commence d'abord cette émission avec le journal, présenté cette semaine par Julien Penaud. Bonjour Julien.
Bonjour Xavier, bonjour à tous. À la une de l'actualité, Marseille toujours sous les décombres. Une 8e victime vient d'être retrouvée suite à l'effondrement de 2 immeubles du centre-ville lundi dernier. L'insalubrité des bâtiments crée la polémique. On reviendra au début du journal sur la grogne des Marseillais. Les 7 de Briançon devant la justice. Après avoir aidé des migrants à traverser la frontière franco-italienne en avril dernier, ils étaient à la barre hier au tribunal correctionnel de Gap. Puis nous reviendrons sur les élections de mi-mandat aux États-Unis avec un congrès divisé entre démocrates à la Chambre des représentants et républicains au Sénat. Léo Corcos a rencontré des électeurs américains expatriés à Grenoble. On commence donc ce journal avec la découverte d'un 8e corps dans les décombres de 2 immeubles qui se sont effondrés ce lundi à Marseille. Bonjour Aurélia Valarié.
Bonjour.
Après l'émotion, place maintenant à la colère.
Des appartements fissurés, des cages d'escalier défoncées, des trous dans les toitures et les planchers, le ton monte à Marseille. Les habitants dénoncent l'inaction de la municipalité face à l'insalubrité de certains bâtiments. Plusieurs rassemblements ont lieu cette semaine, mais la mobilisation ne s'arrête pas là. Elle se fait aussi du côté des médias, avec notamment le quotidien La Marseillaise qui a lancé une enquête citoyenne en ligne pour dresser un état des lieux des habitats de la ville. Avec le hashtag Balance ton taudis, lancé mercredi, les internautes sont appelés à témoigner et ce sont plus d'une centaine d'entre eux qui ont déjà partagé leur expérience sur les réseaux sociaux.
Et donc face à cette situation, Aurélia, que répond le maire ?
Alors Jean-Claude Gaudin a tenté de se justifier hier durant une conférence de presse, mais il n'a pas vraiment convaincu. L'élu a défendu le travail de son équipe municipale et a écarté l'hypothèse d'une démission. Il a également démenti le chiffre de 40 000 logements indignes, publié dans un rapport de la Fondation Abbé Pierre en 2015.
Merci Aurélia. Demain, une marche blanche sera d'ailleurs organisée à Marseille en hommage à ses 8 victimes.
3 à 3,9 milliards d'euros d'économies sur 3 ans.
C'est l'objectif du gouvernement concernant les négociations entamées cet après-midi sur l'assurance chômage entre syndicats et patronats. Pour y parvenir, l'exécutif entend accélérer le retour à l'emploi, réduire les précarités et désendetter l'UNEDIC, l'association chargée de verser les indemnisations chômage. La diminution des allocations est la ligne rouge à ne pas dépasser pour les syndicats. Des actes antisémites en forte hausse. Après 2 années de baisse, leur nombre a augmenté à 69% en France sur les 9 derniers mois. Un chiffre publié aujourd'hui sur Facebook par Édouard Philippe. Le Premier ministre fait le parallèle avec la funeste nuit du cristal survenue il y a 80 ans, le 9 novembre 1938. Les nazis avaient alors procédé au massacre d'une centaine de juifs allemands.
Accusés d'avoir aidé des migrants et à traverser la frontière franco-italienne, les 7 de Briançon étaient devant la justice.
Hier, ce sont 4 Français, 2 Suisses et 1 Italien, âgés de 22 à 51 ans, qui étaient à la barre au tribunal correctionnel de Gap. Le procureur de la République a requis jusqu'à 4 mois de prison ferme pour les 7 prévenus. Marine De Haas, responsable des questions européennes à la CIMAD, une association de protection des migrants, a réagi ce matin au lendemain du procès.
Nous, on continue de demander la relaxe totale pour toutes les personnes poursuivies en estimant que c'est un nouveau cas de délit de solidarité. Et surtout, on est très très critique sur le fait que le ministère n'a même pas pris la peine d'établir la responsabilité individuelle des personnes concernant les infractions qui leur sont reprochées. Et puis comme ça a été le cas aussi sur d'autres procès avant, on continuera à se mobiliser auprès de ces personnes poursuivies, notamment pour faire appel des décisions si elles sont effectivement condamnées.
C'était Marine De Haas, responsable des questions européennes à la CIMAD, au micro de Luc Chemla. Le délibéré sera rendu le 13 décembre. Total, BP, Shell s'engagent à réduire leurs marges au maximum pour faire baisser le prix à la pompe. C'est ce qu'a annoncé hier les ministres de l'économie et de l'écologie, Bruno Le Maire et François de Rugy. Les distributeurs assurent que la baisse du prix au baril sera directement répercutée sur les factures des automobilistes. Emmanuel Macron continue son périple dans le nord de la France. Aujourd'hui à Lens, le président a annoncé une baisse drastique du coût du permis de conduire. Une décision qui rentre dans le cadre de la loi Mobility qui sera présentée en Conseil des ministres cet automne.
Après le scandale du lait infantile, Lactalis revient dans l'actualité pour une affaire de pollution en Isère.
Les responsables d'une fromagerie appartenant au géant laitier français situé à Saint-Just-de-Clair comparaîtront lundi au tribunal correctionnel de Grenoble. L'usine est accusée d'avoir pollué l'Isère depuis plus de 15 ans. Ce sont des associations de pêche et de protection de la nature qui ont déposé plainte. Ils ont d'ailleurs le soutien de Joël Aubaton, le maire de la commune. Il souhaite que Lactalis se raccorde au réseau public de traitement des eaux. On l'écoute.
Il faut absolument arrêter cette pollution de l'Isère. Cette pollution, elle est visible. Les gens qui habitent au bord de l'Isère ou les gens qui se promènent sur le bateau touristique peuvent la voir, cette pollution. Nous, ce qu'on demande au service de l'État, c'est le raccordement à l'assainissement collectif. Le tuyau arrive à 10 mètres de chez eux. Donc maintenant, la balle est dans leur camp. Même s'ils veulent faire une station individuelle, si l'assainissement collectif ne fonctionne pas, oui. Mais le plus rapide serait de se raccorder à la station d'épuration.
Joël Aubaton, maire de Saint-Just-de-Clay, au micro d'Aurélia Valarié.
Donald Trump devra gouverner avec une cohabitation entre démocrates à la Chambre haute et républicains au Sénat.
C'est ainsi que se sont soldées les élections de mi-mandat outre-Atlantique mardi dernier, résultat d'une intense campagne, et pas qu'aux États-Unis. À Grenoble, la filiale du Parti démocrate Abroad rassemble et accompagne les militants américains expatriés dans leur démarche électorale. Léo Corcos les a rencontrés.
Mickey vient de Californie, un État représenté par des élus démocrates. Mais ce n'est pas le cas de tous, c'est pourquoi elle a choisi de s'engager.
Il y a énormément d'Américains qui vivent dans la région et nous ne les connaissons pas tous. Nous avons donc passé du temps à les contacter puis à les aider à s'inscrire sur les listes électorales.
Vivre loin des États-Unis n'est pas un obstacle pour eux. La présidente de Democrats Abroad, Gretchen Paskalis, se voit comme une activiste. L'arrivée au pouvoir de Donald Trump a redéfini son rapport aux élections.
C'est sûrement l'élection la plus importante de notre vie. Honnêtement, avant l'élection de Trump, je ne voyais pas le vote comme une responsabilité. Je ne le trouvais utile que s'il servait mes intérêts ou si je n'étais pas satisfaite du résultat de la précédente élection.
La victoire des démocrates à la Chambre des représentants a satisfait Gretchen Paskalis, mais elle ne compte pas s'arrêter là à 2 ans des prochaines élections présidentielles.
Nous voulons être sûrs que les votants soient le plus nombreux possible. Je pense que parmi nous, plus personne ne sera inactif. Même si un jour les deux chambres et la Maison Blanche sont contrôlées par des démocrates, je serai toujours dehors à encourager les gens à s'inscrire sur les listes électorales, leur faire comprendre combien c'est important, car j'ai vu ce qui pouvait arriver quand les gens ne votent pas.
Selon des chiffres provisoires, ce sont 47% d'Américains qui ont voté mardi.
Et 47%, c'est 11 points de plus qu'aux précédentes midterms. En 2014, 36% des Américains s'étaient rendus aux urnes. L'État islamique revendique l'attaque au couteau survenue cet après-midi à Melbourne, en Australie. Plus tôt dans la journée, un homme d'origine somalienne a tué une personne et blessé 2 autres en plein centre-ville. L'auteur de l'attaque a succombé à ses blessures à l'hôpital. Des bouteilles de gaz ont été retrouvées dans sa voiture et les autorités privilégient la piste terroriste.
100 ans après l'armistice, la France se prépare dimanche à commémorer la fin de la Première Guerre mondiale.
Loin des tirs de canon officiels, l'association Souvenirs de France mise sur un hommage 2.0 avec une application mobile. Mémoire d'Homme, c'est son nom, permet aux utilisateurs de découvrir dans 20 cimetières communaux français l'histoire de 300 000 poilus. Serge Barcellini, président de l'association, veut s'adresser à la nouvelle génération.
L'objectif est de permettre aux jeunes de pouvoir découvrir la mémoire avec les outils d'aujourd'hui. C'est-à-dire que je crois fondamentalement que la mémoire est aussi une affaire d'outils. Pour qu'il y ait mémoire, il faut qu'il y ait outils de mémoire et que les outils évoluent avec le temps. En 1920, l'outil principal, c'était la cérémonie et le dépôt de gerbes. En 2018, l'outil principal, ce n'est plus la cérémonie. L'outil principal, c'est le lieu de mémoire qu'on découvre dans un voyage scolaire, c'est le lieu de mémoire sur lequel on va, c'est comprendre un monument, et la tombe, c'est aussi un lieu de mémoire. Et l'outil nouveau, c'est pas la gerbe, passer le téléphone portable et la tablette.
Serge Barcellini, président de l'association Souvenirs de France, au micro d'Aurélia Valarier. L'application compte également la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Algérie et d'Indochine. Ce soir, le GF38 accueille l'AC Ajaccio en Ligue 2. Vainqueur d'Orléans samedi dernier, les Grenoblois doivent confirmer leur 5e place au classement général.
C'était le journal de Julien Penaud. On vous retrouve en fin d'émission pour le rappel des titres.
Microcité.
Il est 16h sur Radio Campus Grenoble. Restez avec nous dans quelques minutes. Nous allons parler du sujet chaud du moment, la hausse des taxes sur le carburant. Et on va se poser la question d'une écologie punitive. Mais avant cela, une petite pause musicale. C'était Drive My Car des indémodables, Beatles. Il est 16h43 dans Microcité et la voiture, justement, nous allons en reparler dans notre dossier.
Le dossier.
Et pour en parler, j'accueille Rudy Pupin. Bonjour Rudy.
Bonjour Xavier.
Aujourd'hui, on va parler de la hausse des taxes sur les carburants et plus largement de la fiscalité écologique.
Oui, plus 7 centimes sur la gasoil, plus 4 centimes sur l'essence. Le gouvernement a décidé d'augmenter les taxes sur les carburants au nom de la transition écologique. Une hausse qui va continuer chaque année jusqu'en 2021. Cela relance plus largement le débat sur la fiscalité environnementale. Est-ce le meilleur moyen pour changer nos mentalités? D'autres solutions sont-elles envisageables? Pour en parler en plateau, Jean-Pierre Arroyo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes référent La République En Marche en Isère. En face de vous, Jean-Baptiste Caillé, responsable fédéral PS Isère sur les questions d'Europe et d'écologie. Bonjour.
Bonjour.
Alors, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. On commence avec l'actualité du moment. Une journée de mobilisation prévue le 17 novembre. Les Gilets jaunes, c'est le nom du mouvement, souhaitent bloquer le pays pour protester contre cette hausse. On va écouter Julien Terrier, son porte-parole à Grenoble. Il explique les raisons de ce mécontentement.
C'est un ras-le-bol général des Français. Dès qu'on prend la voiture, on a l'impression d'être traqué pour un oui, pour un non. Prendre sa voiture aujourd'hui pour aller travailler, c'est un budget à part entière, en fait. Et il y en a qu'on n'en veut plus la possibilité bientôt, surtout dans les zones rurales. Les Français veulent bien payer, mais il faut qu'on avance vers quelque chose de réalisable.
Alors Jean-Pierre Arroyo, vous comprenez la colère qui se développe dans le pays avec cette augmentation des taxes sur le carburant?
Bien sûr, on comprend l'inquiétude des Français vis-à-vis de cette augmentation, mais aujourd'hui, elle est nécessaire quand on voit aujourd'hui le rapport du GIEC par rapport au climat. Je pense que des mesures sont à prendre en faveur pour décarboner en fait les transports et augmenter les taxes sur le carburant. C'est la trajectoire qu'on s'est fixée également avec la COP21 la France et les pays qui ont suivi, qui ont adhéré à cet acte. Et donc, quand on parle de taxe carbone aujourd'hui, on est sur 30 euros par tonne aujourd'hui pour la taxe carbone. On doit aller en 2021 à 56. Et à l'horizon 2030, on doit passer à 100. Donc voilà, donc, cette taxe carbone va faire que les taxes sur les carburants vont augmenter. Maintenant, au niveau du prix du carburant, il n'y a pas que la taxe. On sait qu'il y a la hausse du baril du pétrole qui est importante depuis 2016, ça a fortement augmenté, je crois que ça a doublé. Plus également le taux de change entre l'euro et le dollar, qui ne nous est pas favorable, fait aussi que les prix du carburant ont fortement augmenté. Alors là, je crois que le prix du baril commence à descendre et que les distributeurs aussi jouent le jeu et baissent les prix à la pompe.
Il n'y a pas de la taxe, on va en reparler d'ailleurs. Et vous, Jean-Baptiste Caillet, est-ce que vous soutenez les automobilistes mécontents? Est-ce que vous aussi, vous allez enfiler le gilet jaune samedi prochain?
Écoutez, nous comprenons la colère des Français. Nous comprenons notamment et plus particulièrement la colère de ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur véhicule. Je pense notamment aux ruraux qui, dans les campagnes, n'ont pas d'autre choix parce qu'ils n'ont pas d'alternative sérieuse de transport en commun pour pouvoir changer leur mode de transport. Donc nous, on est d'accord avec la fiscalité écologique. Tout ce qu'on dit, c'est que cette hausse de 55 milliards sur 5 ans, elle doit servir à la transition énergétique. Or, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Seulement 20% de ces 55 milliards iront à la transition énergétique. Si l'ensemble allait à la transition énergétique, nous dirions d'accord sans aucun problème, mais ce n'est pas le cas.
Parce que ce qui est reproché aussi au gouvernement, c'est que le produit de ces taxes n'est pas directement affecté à la transition écologique. On parle de la TICPE, hein, la taxe sur les produits énergétiques. Elle doit rapporter 33,8 milliards d'euros cette année, et seulement 21% de cette somme est assurée de financer la transition écologique. C'est peu, non, Jean-Pierre Arroyo?
C'est peu, je ne sais pas. Le plan d'investissement au niveau de l'écologie pour par le gouvernement sur le quinquennat, c'est 20 milliards. Je ne sais pas si les précédents gouvernements avaient un tel plan d'investissement en faveur de l'écologie. Au niveau des problématiques qui sont spécifiques, par exemple, à la ruralité, il est prévu de mettre en place ce qui a été mis en place dans les Hauts-de-France. C'est-à-dire qu'une aide pour les personnes qui habitent à 20-30 km de leur... qui travaillent à 20-30 km de leur domicile, excusez-moi. Et donc, cette aide est de l'ordre de 20 euros, ce qui est complètement compatible avec... qui couvre bien l'augmentation constatée sur les prix des carburants.
Justement, alors, pour compenser cette hausse et accompagner les automobilistes, vous parlez de cette aide, hein, de 20 euros, qui est d'ailleurs déjà mise en place dans le Hauts-de-France. Hein, 20 euros chaque mois pour les personnes modestes qui travaillent à plus de 30 km de leur territoire, de chez eux, pardon. Et est-ce que ça, c'est une bonne solution, Jean-Baptiste Caillet, donner un coup de pouce financier aux automobilistes qui travaillent?
Alors, sur cette mesure, nous, on est complètement d'accord. Simplement, la limite qu'on voit ici du en même temps se matérialise, puisque qu'est-ce qu'on constate? C'est une aide qui est portée par les régions, donc qui est financée par les régions. On ne peut pas en même temps faire porter la transition écologique sur les régions et leur demander des baisses de dépenses de fonctionnement. Il y a un moment, ça ne fonctionne pas. Donc, ce qui est mis en place par Xavier Bertrand, c'est très bien, mais si on veut que les régions le mettent en place, il faut qu'on leur donne les moyens et des financements qui vont avec. On ne peut pas faire porter la transition énergétique sur les régions sans leur donner les financements.
Alors justement, ça ne satisfait pas, mais vous n'êtes pas le seul, parce que ce genre d'aide ne satisfait pas tout le monde. On écoute par exemple Julien Terrier, le porte-parole du mouvement de protestation des Gilets jaunes à Grenoble, on le réécoute.
C'est une aberration. Déjà au niveau des conditions, pour avoir ce chèque carburant, 20 euros, ça ne représente rien pour lui, ce budget carburant. Ce n'est pas du tout ce qui va aider les gens qui habitent en zone rurale à aller travailler en ville. C'est des transports en commun qu'il faut développer, mais ce n'est pas ça qui va aider les Français aujourd'hui. Donc le chèque carburant n'est pas une solution, c'est pas une réponse, c'est pas ce qu'on attend du gouvernement en tout cas. C'est quelque chose de beaucoup plus franc.
Alors on l'entend, Julien Terrier, il parle d'une vraie problématique dans les zones rurales. Est-ce que cette absence de transport en commun pour accéder aux services publics qui se trouvent parfois à plusieurs dizaines de kilomètres, est-ce que vous la comprenez? Est-ce que ce n'est pas ça qu'il aurait fallu d'abord développer avant de faire une hausse des taxes? Jean-Pierre Arroyo.
Bien sûr, il y a ces solutions de transport en commun et les solutions de covoiturage également qui se mettent en place. Moi, j'habite au pied du Vercors et dans le Vercors, il y a déjà un système de covoiturage qui s'appelle Illicov. Donc, qui permet donc aux gens du Vercors à descendre dans la vallée pour pouvoir aller travailler. Donc, bien sûr qu'il y a des dispositions qui sont soutenues par le gouvernement, que nous-mêmes nous soutenons en tant que mouvement par rapport aux projets citoyens que nous mettons en place sur le territoire. Et donc, bien sûr qu'il n'y a pas que cette aide, mais il y a des gens qui n'ont vraiment pas le choix et qui doivent utiliser à tout prix leur véhicule. Donc on doit les aider. Et je pense que l'augmentation de 20 euros, ce n'est pas pour couvrir les frais de transport, c'est pour compenser la perte due à l'augmentation. Je pense qu'il ne faut pas confondre les deux choses.
Ouais, Jean-Baptiste Caillé, je vois réagir le covoiturage.
Alors le covoiturage, c'est intéressant parce qu'on peut prendre un exemple local. Et je vais vous étonner parce que je vais citer le département de l'Isère qui n'est pas tout à fait à gauche. Mais le département de l'Isère, il fait quoi avec Libre à vous ? Il dit aux gens, écoutez... Utiliser des moyens de transport qui sont propres, utiliser le covoiturage, utiliser des moyens de transport qui sont décarbonés. Et en échange, on va vous donner des points que vous pourrez convertir pour acheter des cadeaux. Donc ça, c'est une écologie qui est incitative et qui nous semble intelligente, puisque l'écologie punitive, à force de trop en faire, on va monter les Français contre un sujet qui est vraiment impératif et qu'on doit mettre en place.
Jean-Pierre Auré.
Alors, oui, alors je ne veux pas parler d'écologie punitive, parce que par rapport à ça... En plus, il y a cette augmentation des taxes, on en est conscient, mais en plus de ça, il était prévu, et c'était prévu par le programme d'Emmanuel Macron, il était prévu d'aligner le diesel avec l'essence, c'est ce qui sera fait au niveau des taxes en 2022. Mais il était prévu aussi, en parallèle de ça, de faire une prime à la conversion. Cette prime à la conversion, c'est un succès. C'est 200 000 véhicules, enfin, c'est 200 000 primes qui ont été distribuées pour des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Et cette prime va être bonifiée, elle va passer à 2500 euros. Pour des véhicules neufs et pour les non-imposables, ce ne sera pas que les véhicules neufs, ce sera également les véhicules d'occasion.
Est-ce qu'il faut aller encore plus loin ? Par exemple, l'Allemagne, ça va jusqu'à 10 000 euros une prime, pour la prime de la conversion. Est-ce que c'est 2 500 euros parce que vu le prix quand même des voitures non polluantes, hybrides,
on n'a pas la même situation financière que l'Allemagne. Donc ce genre d'investissement... Que l'Allemagne peut consentir. Je ne sais pas si notre budget, à travers notre budget et le déficit budgétaire que nous avons tous les ans et que nous essayons de résorber, on puisse se permettre d'avoir ce genre de dépenses. Je pense qu'il faut être aussi raisonnable. Et comme je vous disais, 200 000 véhicules sur 10 mois, faut savoir qu'on vend, je crois que on vend 2 millions de véhicules par an à peu près. Donc c'est 10% du parc automobile qui est sur des véhicules qui sont décarbonés. Enfin, voilà, parti.
Alors, il y a quelque chose qui paraît aussi incohérent chez les opposants à ces taxes, c'est qu'elles sont censées inciter les automobilistes à diminuer leur consommation de carburant. Or, l'aide au transport qu'on a vu dans la région, par exemple, des Hauts-de-France, que souhaite généraliser Emmanuel Macron, est destinée à rendre plus supportable cette hausse. C'est pas incohérent ? Cette aide va-t-elle pas tuer la taxe, finalement ? Jean-Pierre Arroyo ?
Non, parce que c'est vraiment destiné à une certaine catégorie de personnes. Donc des gens qui habitent loin de leur domicile, donc sûrement des gens qui habitent dans les zones rurales et des personnes qui sont à revenus modestes. Donc voilà, donc c'est vraiment limité à une certaine catégorie de personnes. C'est pas généralisé à toutes les personnes, d'accord ?
Alors, chaque année, il faut le rappeler, la pollution de l'air tue près de 42 000 personnes. Olivier Blond, journaliste et auteur du livre, on a parlé d'écologie punitive, il est l'auteur du livre « Pour en finir avec cette écologie punitive » qui est sorti en juin dernier, a travaillé sur cette question. Et voici ce qu'il propose pour lutter contre ce fléau.
La meilleure manière de lutter contre la pollution automobile, c'est de diminuer le besoin de déplacement. Ça veut dire éviter que les gens aient besoin de prendre leur voiture pour aller travailler, par exemple. Et ça, ça peut être fait de manière très simple et très peu coûteuse. En généralisant le télétravail, si on met un jour de télétravail par semaine dans une entreprise, c'est tout à fait gérable, ça augmente la productivité des gens, ça leur donne plus de temps chez eux et ça diminue d'autant le nombre de déplacements, en général en véhicule. Pour le coup, c'est pas du tout punitif, ça bénéficie à tout le monde et c'est quelque chose qu'il faudrait absolument généraliser.
Jean-Baptiste Caillé, on l'entend, c'est une idée, ça, le télétravail, le généraliser. Et justement, est-ce qu'au-delà de cette taxe, c'est pas toute une approche qu'il faut changer vis-à-vis de l'écologie ?
Mais bien sûr, vous avez totalement raison. Ce qu'il faut, c'est changer de paradigme, cesser de matraquer les Français et leur faire adhérer à l'écologie. Pour les faire adhérer, il n'y a pas 50 solutions. Il faut les aider financièrement et il faut que le transport décarboné devienne intéressant. Pour ça, nous, ce qu'on propose, c'est notamment sur les petites lignes. On a un exemple local avec Grenoble Gap. Toutes les petites lignes, la SNCF est en train de les laisser tomber. Et bien à ce moment-là, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Il faut qu'elle accompagne les régions pour qu'on puisse sauvegarder ces petites lignes et qu'on aide les ruraux à se déplacer, notamment par le train.
Alors, Jean-Baptiste Caillé, vous êtes contre une augmentation massive. Vous parlez, il n'y a pas que les taxes finalement, mais rappelons-le, le PS, quand il était au pouvoir en 2013, on se souvient de l'écotaxe, des bonnets rouges, il y a eu un petit peu cette grogne aussi contre ces taxes.
Oui, bien sûr, et d'ailleurs on a su reculer face à un mouvement qui a été d'une ampleur inédite, et on a su entendre la colère des Français à un moment où on a dit, les gens ont dit stop. Donc voilà, on a compris, et maintenant on est beaucoup plus sur quelque chose d'incitatif, objectifs. Et par exemple, dans la loi sur la transition énergétique pour une croissance verte, on avait un système qui était les territoires à énergie positive. Ce dispositif a été abandonné par la majorité actuelle et il était extrêmement intéressant. Il y a eu énormément de projets qui ont été supportés par l'État, plus de 5000 entre 2014 et 2017.
Donc, quels sont devenus ces projets, du coup, pourquoi ils n'ont pas été...
Par rapport au projet, je pense qu'il y a eu pas mal de choses de faites au niveau du gouvernement, au niveau de l'écologie. Je pense que, bon, déjà, j'aime pas le terme matraquer les Français, parce que franchement, au niveau de ce qui a été, les mesures qui ont été faites au niveau du pouvoir d'achat sont quand même très importantes. Je ne vais pas dériver sur le sujet du pouvoir d'achat, mais je pense qu'on n'a pas matraqué les Français par rapport aux taxes sur le carburant. C'est une trajectoire qui va dans le sens de l'histoire. Ces taxes sur le carburant, on est obligé de les faire. Donc, l'écologie telle qu'on la voit, ce n'est pas une écologie punitive. Avec les primes de conversion, avec le chèque énergie qui va être augmenté, on parle d'une écologie incitative également. Quand on voit que 10% du parc aujourd'hui, grâce aux primes de conversion, du parc qui a été renouvelé cette année grâce aux primes de conversion, ce sont des véhicules hybrides rechargeables ou des véhicules électriques, non, on est en train de changer de paradigme, on est en train de le faire également. Quand on voit également qu'on a arrêté les exploitations, les nouveaux permis d'exploitation pour les hydrocarbures en décembre 2017, c'est un changement de paradigme, ça. C'est-à-dire que en 2040, nous n'aurons plus d'exploitation d'hydrocarbures.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que François de Rugy a signé un permis pour Total pour exploiter, pour rechercher des forages au large de la Guyane. Donc on va augmenter l'essence disponible sur le marché. C'est en contradiction avec le fait de dire aux Français de ne plus utiliser leurs véhicules.
Le permis d'exploitation, il a été signé en 2001, d'accord, pour Total. Donc c'est pas François de Rugy qui a signé. De toute façon, on ne pouvait pas revenir en arrière. Sinon, on avait des pénalités financières très importantes. Et le préfet de Guyane va faire en sorte... De bien surveiller à ce que le récif corallien qui est à 20 km de ce forage ne soit pas... il va y avoir un process de surveillance sur ce point-là. Voilà, et donc le permis il a été signé en 2001. Le 2001, ce n'était pas l'AREM qui était au gouvernement.
Voilà, Madame Arzon, on a plus le temps de continuer sur ce débat qui est fort intéressant et qui continuera, c'est certain, dans les semaines prochaines.
Ça continuera évidemment. Xavier, alors on vous remercie Jean-Pierre Arroyo d'avoir été présent. Vous êtes référent La République En Marche en Isère. Jean-Pierre Caillet, responsable fédéral PS en Isère. Merci à vous deux d'être venus. C'est la fin de ce débat, je vous laisse la parole.
Oui, c'était le débat. Merci à vous Rudy Pupin et merci aussi à l'aide précieuse de Luc Chemla pour ce débat. Il est 16h56 sur Radio Campus Grenoble et vous êtes toujours dans l'émission Microcité.
Microcité jusqu'à 17h.
Et on va continuer de parler d'automobile, mais accrochez-vous car ça va aller vite. Depuis 40 ans, l'association des Galapia permet à des jeunes de 12 à 18 ans de construire et réparer leur propre voiture de course. Alexandre Lepère les a suivis au sein de leur atelier à Grenoble. C'est le grand format de cette semaine.
Il est 15h au garage, l'après-midi des jeunes Galapia commence. Julien, 14 ans, s'affaire sur une monoplace reproduite à l'échelle 2 tiers. Objectif, élaborer de nouvelles pièces de carrosserie.
La construction, c'est vachement intéressant. Par exemple, l'échappement, il faut créer une sortie, il faut faire des soudures. Et moi, aujourd'hui, je serais à peu près apte d'en faire une si on me demande, alors qu'un autre enfant qui apprend juste à l'école ne serait pas capable de le faire.
Pour encadrer ces apprentis mécaniciens, des bénévoles expérimentés, Michel est un retraité de l'industrie automobile.
On leur apprend un peu les bases, savoir mesurer quelque chose, donc mettre décimètres, centimètres. Pour certains, on retourne au tableau, savoir percer un trou. Et puis on leur apprend aussi la soudure. Donc au début, ils sont un peu impressionnés par l'arc électrique, les étincelles. Et puis après, ils s'habituent et puis très bien.
Là, j'ai demandé un lave-vite, vous en avez là-bas, mais non, ça ne réagit pas.
La rigueur est omniprésente, mais l'entretien des bolides se fait aussi dans un bon esprit. De quoi mettre à l'aise les jeunes Galapia. C'est le cas de Gaspard, 13 ans.
Quand j'étais petit, j'ai eu peur des grands. Et quand je suis arrivé au Galapia, après quelques mois, je me sentais bien dans ma peau. J'avais plus peur de poser des questions. Pour moi, j'étais un peu libre. C'est quelque chose qui aide beaucoup.
Présent depuis 1977, André Jounot est le responsable de l'atelier, un véritable témoin de la passion des Galapia.
On fait travailler leur désir, parce que acheter une voiture, oui, ça peut devenir un objet de consommation, mais quand on la construit, on a une certaine fierté. Ils sont très amoureux de leur voiture. Quand ils font du travail et qu'il y en a un qui le casse, ils sont blessés au fond d'eux-mêmes, ouais, c'est vrai.
Et même si l'association n'est pas une école à part entière, elle est un véritable tremplin pour ces jeunes adhérents qui se dirigent vers des études en mécanique.
À partir du moment où un garage cherche de la main-d'œuvre qui sait de quoi on parle. Quand un Galapia se présente pour faire un stage, une formation, on sait déjà qu'il connaît un petit peu la mécanique et il connaît les règles de la vie courante et ils apprécient beaucoup.
Le développement des Galapia est une aubaine pour un secteur en crise. Dans la filière automobile, 25% des PME ont besoin de recruter.
Un reportage d'Alexandre Lepère à Grenoble. Il est bientôt 17h sur Radio Campus Grenoble. Tout de suite, le rappel des titres avec Julien Penaud.
Et maintenant, 8 corps retrouvés dans les décombres suite à l'effondrement de 2 immeubles à Marseille lundi dernier. Jean-Claude Gaudin, maire de la ville, rejette toute responsabilité. Une marche blanche est organisée demain en hommage aux 8 victimes. Après une semaine houleuse, Emmanuel Macron est à Lens aujourd'hui. Le chef d'État annonce une baisse drastique du coût du permis de conduire. Une décision qui s'inscrit dans le plan de mobilité qui sera présenté au Conseil des ministres cet automne.
Microcité, c'est déjà terminé. Vous pourrez réécouter l'émission en podcast très bientôt sur campusgrenoble.org. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Facebook. Rendez-vous vendredi prochain, même lieu, même heure, pour une nouvelle émission. Merci à tous, bon week-end.